Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. Nous allons faire deux lectures. La première, que vous connaissez très très bien, que nous avons lue encore jeudi soir, Jean chapitre 3 et verset 16. Jean 3, 16. Y en a-t-il qui pourraient le dire par cœur ? Oui, hein. C'est un texte encourageant. Allez, on va le lire tous ensemble. On va attendre ceux qui ne le connaissent pas par cœur, parce que peut-être quelqu'un découvre Dieu. Et il va s'en souvenir parce qu'il est bon. Ce verset encore, il est encourageant. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le relit tous ensemble ? Vous voulez ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que cette parole puisse être dans notre cœur. Et la lecture suivante, c'est encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jean 10, au verset 27. Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Est-ce que ces textes, vous les appropriez ? Vous dites, c'est pour moi que Jésus est en train de parler, là. J'ai vécu ces choses. Je peux dire que c'est quelque chose de vrai. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que, puisque je crois, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez dire ça ? Quelle grâce, celui, celle, qui peut dire ces choses. Et ce texte qui dit « Nul ne vous ravira de ma main. Vous êtes mes brebis. » C'est M. Roussel, mercredi après-midi, qui nous parlait de l'amour du bon berger et que Dieu nous voyait tous comme des brebis. Tous comme des brebis. Alors, on ne va pas se mettre à bêler. C'est comme ça qu'on fait. On ne va pas faire ça. Mais réalisons que Dieu, il nous voit comme, il se voit comme notre berger. Il voudrait qu'on soit tous ses brebis, et non une brebis errante, une brebis perdue. Et les deux mots qui sont en relation, qui forment un peu le thème de ce message ce matin, c'est le mot « périr ». Vous l'avez vu dans Jean 3, 16, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ». Et dans l'autre texte, « Elles ne périront jamais ». Quelle grâce ! Voilà une promesse de Dieu, une promesse véritable qu'on peut s'approprier, qui nous est donnée par grâce, par le moyen de la foi. Pas besoin de payer Dieu pour qu'il nous donne la vie éternelle. Pas besoin d'acheter Dieu par des mérites, toutes sortes de choses, des actes, des pèlerinages, des cierges. Pas besoin. La parole de Dieu nous dit que c'est simple. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. Et il suffit de l'accepter par la foi. Et c'est une promesse très très importante. Nous sommes appelés à être une assemblée qui ne périt pas. Je m'explique. Combien de fois on a la tristesse, peut-être nous encore plus en tant que pasteurs, que d'entendre que des églises passent par des moments difficiles, par des divisions, par des moments d'épreuves. Il y a des coups durs, il y a des choses, et puis l'église se dépérit. L'église périt. L'assemblée périt. Le troupeau périt. Il y a quelque chose. Alors que une certaine église, l'une ou l'autre, hein, peu importe la dénomination, a connu peut-être un moment de visitation, de réveil, d'un coup, tout s'éteint. Les chaises se vident. Et après tout, on ne va pas compter, mais quand même. Les choses se font comme ça. Combien de souffrances on a dans notre cœur lorsqu'on apprend qu'une personne qui a connu le Seigneur, bien d'un coup, mais où elle est ? On revient dans une assemblée, alors, et tel frère, telle sœur, nous en tant que pasteur, on est de passage quelquefois. Je me souviens, il y avait un homme, il y avait une femme, un frère et une sœur. Qu'est-ce qui m'avait touché ? Qu'est-ce qui, l'échange que j'avais eu avec lui était bon ? Où est-ce qu'il est ? Eh bien, il a quitté le Seigneur. Il a perdu la foi, il a chuté, peu importe, il a péri. Et on réalise que ces textes ne sont pas la garantie de la vie éternelle. Ce n'est pas une sécurité éternelle, puisque Dieu l'a dit, ça va se faire quoi que je fasse. On voit qu'il y a un besoin de veiller. Les promesses de Dieu sont certaines, oui, mais à chaque promesse, il y a des choix à faire. Des choix qui vont faire qu'on pourra en bénéficier, on pourra les avoir pour nous, ou bien passer à côté. Passer à côté. Dernièrement, j'ai appris que dans une assemblée, il y avait une jeune adote qui avait grandi. Cette adote a grandi dans l'église, puis elle a entendu l'évangile, un peu comme tout ado, une oreille par-ci par-là, et puis avec les pensées qui vagabondent. Et puis les années sont passées et elle a quitté l'assemblée. Elle a eu des enfants avec des jeunes hommes qui ne sont pas au Seigneur, qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu, qui ne l'ont pas respecté, qui ne l'ont pas aimé vraiment. Elle a eu des enfants, puis ça a été de mal en pire. Et puis dernièrement, on a appris que cette jeune fille, alors qu'elle était chez sa maman, a eu la visite d'un ancien compagnon, le papa d'un de ses enfants. Elle a 3 enfants. Et ce papa est rentré dans l'appartement. Il a commencé à se disputer avec la maman. La maman a réussi à se réfugier derrière une porte avec les enfants, il me semble, la salle de bain. Et le papa, pour les intimider, a tiré au travers de la porte de la salle de bain. Et une balle est allée dans la tête de du deuxième enfant. Et le deuxième enfant, après quelques heures ou quelques minutes de coma, est décédé. Quel drame! Quelle souffrance! Quand on sait que quelqu'un a entendu la bonne nouvelle et puis qu'il a pu passer à côté. Est-ce que c'est la faute seulement à cette fille qui n'a pas saisi l'occasion? Est-ce que on pourrait dire l'Église a fait son rôle et on pourrait aller de réflexion en réflexion? Je n'ai même pas envie d'y aller. Simplement, ce qui reste, c'est la pensée qu'il faut tout faire. Tout faire, tout ce qui nous est possible en tout cas. Ne serait-ce que de la prière qui est déjà tout. Eh bien, pour supplier Dieu que nos enfants puissent accepter l'évangile, que, comme l'a dit M. Hébert, la prière est d'abord un impact sur nous. On veut sûrement que la prière change les autres, souvent ça, mais il rappelait lundi, il me semble, que la prière nous change d'abord à nous, et qu'il voyait plus dans la parole que quand on prie, c'est Dieu qui nous change pour nous rendre aptes à le servir, à être un bon témoin. Un enfant qui voit ses parents mentir, alors qu'ils lui disent « Viens, Jésus est bon, Jésus veut la vérité », il va voir un décalage, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il croit en Dieu. Alors quand on prie, dire « Seigneur, aide-moi à être la personne qu'il faut pour le salut du monde, pour le salut de chacun, entre autres aussi de nos enfants. » Oui, il y a des promesses, cette promesse qu'on ne périra jamais, mais il y a à veiller. Et j'aimerais parler avec vous de 5 points. Je vais essayer d'aller très vite, pas trop vite non plus, mais pas lentement non plus. Je vais essayer de faire ce qu'il faut pour être dans les temps, pour ne pas vous lasser. Mais 5 points sur lesquels il nous faut veiller pour être au bénéfice, de ses promesses. Je l'ai dit, ces textes ne sont pas une sécurité éternelle, ne nous parlent pas de sécurité éternelle. Quoi que je fasse, j'irai au ciel, Dieu l'a dit, j'ai signé un jour, ça suffit. Mais il nous rappelle que dans toutes les promesses, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. À chaque fois, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu est toujours fidèle à sa parole, mais il dit aussi dans sa parole qu'il nous faut être fidèles à sa parole, nous aussi. Et nous avons notre part. Notre Père nous a donné la liberté, il nous a rendus libres, et qui dit liberté, dit responsabilité. Vous êtes d'accord avec moi? Qui dit liberté, dit responsabilité. Quand ce n'est pas moi qui ai choisi, je peux dire, mais je n'ai pas choisi, j'ai simplement exécuté. Ce n'est pas ma faute. Mais quand j'ai choisi, je ne peux plus dire. C'est moi qui ai fait le choix, et je deviens responsable. Et j'aimais ce que nous disait notre frère pendant ce séminaire, il nous faut être responsable. Responsable. Allez, premier point. Dans Osée, prenez-le avec moi. Osée, au chapitre 4 et au verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Après Daniel. Comment un peuple peut être détruit, peut périr? Premier point. Mon peuple est détruit parce... Qui peut me dire la suite? Parce qu'il lui manque la... connaissance. Un peu plus haut, il dira « Il n'y a point de connaissance dans ce pays. » Comment ne pas périr? Il faut la connaissance. La connaissance de qui? De Dieu. Un texte dit, encore dans Jean 17,3 il me semble, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La connaissance. Un chant dira « Connais-tu de Dieu le don merveilleux, Jésus, notre bon sauveur, notre grand sauveur ?» Connais-tu de Dieu? Déjà le sacrifice, bien sûr, on n'est pas du peuple de Dieu si on ne connaît pas Jésus, si on n'a pas accepté son sacrifice à la croix. Mais je voudrais aller plus loin. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, je vous le lis. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Il nous parle des temps que nous vivons. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu nous donne de l'amour pour sa parole. Vous avez remarqué avec moi, il ne dit pas « ils n'ont pas eu de l'amour ». Ils n'ont pas donné de l'amour. Le verbe utilisé, c'est « ils n'ont pas reçu de l'amour » pour la vérité. Est-ce qu'on aime la parole de Dieu qui est la vérité ? Et la connaissance, comment elle vient ? Premièrement, par la parole. Je crois que le premier des moyens que Dieu nous donne pour le connaître, pour se révéler à nous, c'est la parole de Dieu. Mais certains n'ont pas reçu, n'ont pas accepté de recevoir de l'amour pour la vérité, pour la parole de Dieu. Je crois que ce n'est pas facile pour la chair de supporter, de dire la parole de Dieu, puisqu'elle la remet en question. Quand on n'est pas encore sauvé, elle nous montre, elle nous convainc de pécher sa parole, et etc. Pour la chair, elle est un peu allergique aux choses spirituelles, à la prière, à la lecture de la parole. Ou alors elle va dire, bon, tu le lis, mais comme un roman. Et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Pour connaître Dieu, il faut méditer la parole, plonger nos regards, nous approprier, mettre notre foi dans la parole. Mais il est dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est pourquoi ils n'ont pas pu être sauvés. Aimez-vous lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Si c'est un combat, croyez que Dieu vous donne de l'amour pour la vérité. Il faut dire, Seigneur, je veux ouvrir mes bras, grand, mon cœur, grand ouvert, pour que tu puisses mettre dans mon cœur de l'amour pour ta parole. Et si aujourd'hui vous lisez un, deux versets par jour, eh bien prenez courage. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis un verset, deux versets, peut-être que demain vous arriverez à lire cinq versets, et puis qu'après vous allez prendre un rythme, et si vous baissez, rappelez-vous, Seigneur, je te demande, tu as dit que tu donnais de l'amour pour ta parole, donne-en moi, s'il te plaît. Et recevez-le par la foi. Quand on demande à Dieu, il faut demander sans douter, nous apprend l'épître de Jacques. Sans douter. Et puis Dieu donne, sans reproche, entre autres la sagesse. Comment connaître Dieu, la parole. Et puis il y a aussi une responsabilité à chacun. Et je crois que ça ne concerne pas que les pasteurs, ou que les anciens, ou que les responsables d'activité, mais chacun d'entre nous. Dans Ézéchiel, je vous fais une autre lecture, Ézéchiel chapitre 3, « Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, et tu entendras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertiras pas, et que tu ne parleras pas pour avertir le méchant de se détourner de sa méchante voie afin qu'il vive, lui, le méchant, mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa méchante voie, il mourra, lui, dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra, parce que tu ne l'as point averti. Il mourra dans son péché, et ses actes justes qu'il a faits ne viendront pas en mémoire. Mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le juste de ne pas pécher, et que le juste ne pèche pas, il vivra certainement, car il s'est tenu pour averti, et toi, tu auras délivré ton âme. Un texte peut-être un peu long, qui demanderait d'être médité, mais en simple, en clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on est tous responsables et qu'on doit veiller les uns sur les autres. Et si vous voyez un juste, un de vos frères, qui commet un péché, une iniquité, avertissez-le avec douceur, bien sûr. Il faut savoir comment dire les choses aussi. Mais dites-le, priez, et puis priez pour ce rendez-vous, pour ce contact, et puis dites, voilà, j'ai su ça, s'il te plaît. Réfléchis sur ces choses. Si tu as besoin de quelqu'un pour parler, si tu passes un moment difficile, je suis là pour toi. Et puis on va prier ensemble. Mais il faut que tu aies la victoire. Et Dieu va t'aider. Et si on ne dit rien, ce texte nous laisse sous-entendre qu'on est responsable devant Dieu. Et peut-être que Dieu ne nous a pas établis sur le peuple d'Israël, mais il nous a établis sur notre maison, sur notre foyer. Il nous a établis peut-être comme patron de travail, chef de travail. Il nous a établis dans toutes sortes d'endroits. Et peut-être vous avez reçu une autorité de Dieu, puisque toute autorité vient de Dieu. Autorité de mari, l'autorité de femme, de mère de foyer, qu'importe la place que nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres et d'apporter la connaissance, d'avertir les autres en fonction de ce que Dieu nous aura dit par sa parole. Il dit, je te dirai ma parole et tu la transmettras. Et quand on lit quelque chose, partageons-le. Dès que vous êtes touché par un texte ou que vous réalisez un commandement de Dieu ou un conseil de Dieu, allez voir votre épouse, votre époux, partagez. Tu sais ce que j'ai lu ? Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et puis partagez. Ne prenez pas la parole de Dieu, comme le disait le frère, pour vous taper dessus à coups de verset. Non, ce n'est pas ça. La connaissance, elle ne vient pas comme ça. Mais dans l'amour, s'avertir les uns les autres. Partagez ce qu'on a reçu de Dieu. Il nous a dit qu'on est responsable. Il y a la part de chacun pour soi, mais nous avons chacun aussi une part pour notre prochain. Souvent, ce texte est utilisé pour parler des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce qu'on appelle les inconvertis, les gens du dehors, les gens du monde. Et on a vu que ce texte, dans son contexte, nous parle du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu. On se souvient de David qui, par manque de connaissance, par négligence même, lui qui devait méditer la parole, a fait transporter l'arche par des bœufs. Et à cause de cette action, alors qu'il traversait l'eau, l'arche a commencé à pencher, puis un jeune homme a voulu le retenir. Et cet homme a péri par manque de connaissance. Et un peu plus tard, David va plonger ses regards dans la parole de Dieu et il va découvrir. Mais ce n'est pas sur des bœufs qu'il faut transporter l'arche. C'est les Lévites qui devaient le porter. C'était des hommes mis à part pour ça qui devaient le faire. Combien on est déçu quand on cherche à ramener la présence de Dieu par un autre moyen, copier le monde, puisqu'ils ont copié au départ les pharisiens. Et quand on commence à copier le monde pour ramener la présence de Dieu, vouloir copier ce qui se fait un peu partout, on est forcément déçu. Il y a forcément des drames et peut-être des personnes qui périssent. Oui, qu'on cherche à connaître notre Dieu. Deuxième point, dans Marc chapitre 3 verset 25, vous pouvez le prendre ou sinon je vous le lirai. Marc chapitre 3 verset 25, Jésus va répondre à une attaque qu'on lui fait. On dit que Jésus, ils disent que c'est par Belzébul qui chasse les démons, par Satan qui chasse les démons. Et Jésus va répondre ceci. Au milieu du verset 23, comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et si Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Et je crois que si c'est valable pour Satan, c'est valable aussi pour la maison de Dieu. Si nous nous divisons, alors nous ne subsisterons pas. Et je le répète, je l'ai déjà partagé avec vous une autre fois, mais je parle de l'unité, je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai partagé, je vais essayer de passer, puisqu'on peut revenir sur ce message, mais comment rester unis? Comment travailler à l'unité? Comment ne pas nous laisser diviser par l'ennemi de nos âmes? Eh bien, je prendrai comme exemple ce que Dieu demande de faire, la fourmi. La fourmi. Vous avez remarqué comment dans une fourmilière, chaque fourmi va être ordonnée, va travailler pour la même chose, pour la même communauté, pour le bien de chacun, puis même pour le bien de la reine. Ils ont une reine et tout converge vers là où est la reine. Il y a la fourmilière et chaque fourmi à sa place, fait son travail, cherche, trouve, porte et amène. Une fourmi toute seule ne peut rien faire. Une fourmi seule, elle va, bien qu'elle peut transporter, ce qui paraît, plusieurs centaines de fois son poids, ce qui est déjà pas mal, mais elle ne va pas aller loin. Toute seule, elle ne peut pas. Tandis que toutes les fourmis ensemble, elles peuvent arriver à déplacer un arbre bout par bout en un rien de temps, très très peu de temps. Et certaines fourmilières font des millions de fourmis. Et elles travaillent tout ensemble, tout ensemble. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si vous enlevez la reine, au bout d'un moment, les fourmis, elles commencent à errer, à vagabonder. Elles commencent à perdre leur temps. Elles ne se mettent plus en activité. Elles errent, elles reviennent plus, puis au final, elles dépérissent. Elles dépérissent. Je l'ai fait proprement, j'ai expérimenté la chose. J'ai pris un aquarium, j'ai mis des fourmis, et j'ai fait, pas là, hein, je l'ai fait il y a des années, hein, j'ai plus de temps pour faire ça. Mais je faisais, c'est parce qu'il y a M. Go que je dis ça. Non, je rigole. Mais j'ai regardé, j'ai pris des fourmis sans reine, et je les ai mises. Il n'y en a aucune qui s'est mise à travailler. Puis un jour, j'ai pris une reine. J'ai pris une reine, vous savez, quand elles ont leurs ailes, après la pluie. Et puis, je l'ai mise dans le noir, dans un tube à essai, dans le noir, avec un peu de coton rempli d'eau sucrée, pour ceux qui veulent faire l'expérience. Et puis, elle s'est mise à pondre. Puis au début, elle a commencé à s'occuper des œufs, à les retourner, puis après des larves. Et puis, elle a commencé à s'en occuper, tout ça. Et puis, petit à petit, les larves se sont transformées en fourmis. Et puis, les fourmis ont commencé à être assez nombreuses. Dès qu'il y en avait une douzaine, j'ai enlevé le coton et je les ai mis dans l'aquarium. Et puis elles ont commencé à aller, à récupérer, je mettais des petites sauterelles, des choses et tout, et elles allaient, des bouts de feuilles, etc. Et elles se sont mises à faire ça normalement. Quand il y a la reine, tout va bien. Si on enlève la reine, chacun va errant, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on perd à l'idée que pour nous unir, il faut qu'on ait un sauveur, un même seigneur, un même roi, Si le centre de notre vie, il n'y a plus Jésus, alors on ne va pas rester unis. On va se diviser. Parce que lui, il prie comme ça, ça ne me va pas. Et puis lui, il prie même en langue étrangère, ça ne me va pas. Dimanche dernier, on a eu deux prières qui n'étaient pas des parlées en langue, mais qui étaient une prière faite dans la langue de la personne. Et après tout, dans le ciel, ça sera pareil. Pourquoi pas dans l'église ? Bien sûr. Et on voit que nos différences risquent de nous diviser si on n'a pas un point commun. Et le grand point commun, c'est Jésus. Le grand point commun, c'est notre Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, dit « Courons avec patience la course qui est devant nous. » Je saute quelques passages, j'y reviendrai plus tard. « Fixant les regards ou les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Et puis il y a un mot qui va juste avant ce verset qui parle de la fourmi, il y a marqué « paresseux ». C'est pas vrai ? Paresseux, va vers la fourmi. Et ça me va jusqu'au troisième point. Premier point, la connaissance. Deuxième point, l'unité. Et troisième point, c'est dans Proverbes, chapitre 29 et verset 18. Vous avez sûrement dans vos traductions, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. D'autres traductions disent, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Et encore une autre dit, faute de vision, le peuple périt. On connaît bien ça. Faute de vision, le peuple périt. Avons-nous une vision ? Peut-être quelquefois on n'a aucune vision de la volonté de Dieu, de aucun but dans notre vie pour servir le Seigneur. On n'a aucun but, oui, aucune direction. On manque de vision. On manque d'une révélation de Dieu, d'un but à notre vie. Et alors on commence à dire, oh, vivement que je sois dans le ciel. Vivement que je sois dans le ciel. Et puis on n'en guit que de ça. Et on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans le ciel. Et on oublie que sur la terre, eh bien, on est là encore pour quelque chose. Pour servir le Seigneur. Et c'est vrai que ça sera beau dans le ciel. Mais c'est beau d'être là aujourd'hui. C'est pas vrai ? C'est un privilège d'avoir la vie. C'est un privilège. Alors quelquefois, il y a la santé qui ne va pas bien. Et je comprends qu'on puisse aller plus loin, et j'aimerais détailler un peu ce mot, vision. Vision. J'ai appris que, eh bien, il y avait quelquefois des problèmes de vue. Je sais qu'il y a des opticiens dans la salle, il me semble. Des problèmes de vue, on n'a pas la bonne vision. Et puis, je me suis mis à regarder un petit peu les troubles de la vue, les troubles de la vision, qu'est-ce qu'on pouvait voir ? Il y a la myopie. J'ai appris qu'il y avait de la myopie. Et je crois qu'il y a une myopie spirituelle. Myopie spirituelle. La myopie, personne qui a la vue courte, qui ne voit distinctement que les objets rapprochés. La myopie, quand on est obligé de s'approcher très 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 près. Et il y a des gens, ils ne voient rien pour l'avenir, aucune vision pour l'avenir. Ils pensent qu'à ce qui est tout près dans le temps, et peut-être tout près d'eux, dans l'égoïsme, l'égocentrisme, comme on dit. Et on pense à soi, on se plaît, on est un peu myope, spirituellement parlant. Et je me mets dedans, hein. À chaque fois, je crois que j'ai une part de chaque, mais je veille, on va travailler ensemble à s'améliorer pour le Seigneur, à demander le secours du Seigneur par sa grâce. Mais ne soyons pas myopes. Ne soyons pas myopes. Demandons au Seigneur d'avoir une vision aussi pour l'avenir. Pensons à nos enfants. Quelle église laisserons-nous à nos enfants si Dieu ne revient pas, si Jésus ne revient pas ? C'est sur notre site internet. La myopie. Et puis il y a l'hypermétropie. C'est non compliqué tout ça. L'hypermétropie, quand on est atteint d'hypermétropie, c'est ce qu'on ne distingue pas de près les objets qui sont rapprochés. Par contre, de loin, ça va mieux. Mais c'est ce qui est proche qu'on a du mal. Alors, on fait ça. On fait ça. Peut-être certains se reconnaissent et disent, oula. L'hypermétropie, mais j'ai remarqué que c'est un problème de jeunes. C'est pas une question d'âge, là. L'hypermétropie. Et quelquefois, on voit que l'avenir. Hein. Demain, ça, c'est le problème des jeunes. Oh, demain, j'ai toute la vie. J'ai toute la vie devant moi pour commencer à me demander ce que Dieu veut pour ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur ? Qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain dans l'assemblée ? On verra demain. Et on voit que l'avenir, que plus tard. Demain, demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et n'attends pas demain. Ne dis pas demain, dis aujourd'hui. La parole de Dieu dit aujourd'hui si tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Et il parle à ses enfants, le Seigneur, là. Il ne parle pas à ceux qui ne le connaissent pas. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça, c'est l'hypermétropie. Puis, il y a la presbytie. On dit qu'on est presbyte. C'est la même maladie, on ne voit pas ce qui est de près, on voit de loin, mais là, c'est une question d'âge. Et j'aimerais vous encourager, mes frères, mes sœurs, qui sont moins jeunes qu'avant, qui ont passé peut-être l'âge de la pleine forme, de la pleine santé, et qui vivent des moments difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui auraient soif d'être déjà au ciel, et qui se demandent pourquoi ils sont encore ici-bas sur la terre. Mais pourquoi tu ne me reprends pas? Mais j'aimerais vous redonner courage. Vous n'êtes pas là pour rien. Chacune de vos prières peut avoir un impact dans le monde spirituel et même dans le monde physique. Chacune de vos prières, votre connaissance. J'aime beaucoup le slam, excusez-moi de parler de slam, mais c'est ça, sur le site internet qui a été fait en honneur des aînés. Mais vous écoutez les paroles, ça vous touche. Et c'est vrai, ces paroles qui disent, mais la connaissance, elle est dans les cheveux blancs aussi, comme on dit. D'ailleurs, la parole dit que les cheveux blancs, c'est une couronne. Vous êtes couronnés, mesdames, messieurs. Mais vous êtes là pour quelque chose, vous avez des choses à nous enseigner, vous avez encore votre place. Ne vous sentez pas inutile, vous êtes un exemple pour nous. Vous qui, malgré votre âge, peut-être, eh bien, vous tenez bon dans votre foi. Quelle joie quand on allait voir Madame Ricard et qu'on repartait encore plus encouragé que ce qu'on y arrivait. On allait pour l'encourager. Et la surprise, ben c'est nous qui repartions plus encouragés. De voir qu'à 95 ans, notre sœur était toujours là à dire « Mais moi, j'aime le Seigneur, je sais que je vais le voir, mais tant que je peux être là... » Pourtant, elle ne sortait plus de son appartement. Mais elle disait « Mais tant que je peux être là, je prie au moins. Je prie. » Et elle suppliait Dieu pour sa nièce, pour sa petite fille, pardon. Elle suppliait Dieu pour sa famille. Elle suppliait Dieu pour l'église, pour son pasteur, Monsieur Gau, et pour chacun. Et elle était là à demander des nouvelles. Et je crois qu'à chacun, vous... Mes aînés, vous avez de la valeur à nos yeux, les jeunes. Je voulais vous le dire, et ce n'est pas semblant, ce n'est pas de la flatterie. N'avez pas les chevilles qui enflent non plus. Hein. Comprenez que je veux juste vous dire, vous n'êtes pas là pour rien. Et s'il vous plaît, montrez-nous que ça vaut la peine de vivre avec le Seigneur. Si vous étiez découragé, dites, mais c'est vrai, je ne suis pas là pour rien. Il y a un exemple à donner. Il y a peut-être une parole, il y a peut-être une prière à formuler, il y a peut-être quelque chose à garder avec le Seigneur. Et même si on ne vous voit pas souvent, on ne vous visite pas, qu'on fait défaut, eh bien, communiez avec le Seigneur. Priez, suppliez, et le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous aider à supporter peut-être l'épreuve de l'âge que vous traversez. Mais vous n'êtes pas là pour rien. On a besoin, nous, les jeunes, de voir qu'il y a des aînés qui sont encore là, dans la foi. Et ça nous rassure, ça nous montre que c'est possible. Et j'aimerais vous bénir, vous dire merci pour votre exemple. Oui, les jeunes, quelquefois, plus tard. Et puis les autres, peut-être la presbytie, dira « mon âge, et je vois plus ce qui est prêt ». Vous pouvez répondre à un besoin, le besoin de votre prière et de votre exemple. Et puis il y a la astigmatisme. Vous ne le saviez pas, ça. Moi non plus, jusqu'à ce matin. Astigmatisme, vision brouillée. Quand on voit un point, apparemment, on ne voit plus qu'un point, on voit plus de choses. Alors comment ça fait, je ne sais pas, je ne suis pas astigmate. Mais on voit troublé, brouillé, c'est plus net. Et moi, mais je m'envole, quand je médite la parole de Dieu et quand je cherche, quand je même je me renseigne sur ce que Dieu a fait, mon cœur s'envole, déjà dans le ciel. Et regardez ce que le dictionnaire a dit. En dessinant une simple croix, on détecte facilement ce problème. Est-ce que vous avez une bonne vision de la croix? Comprenez ce que je veux dire? Eh oui, ils disent, vous dessinez une croix et vous voyez le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une des barres qui va être moins nette que l'autre. Et quand on regarde la croix, peut-être certains, ils disent, moi avec Dieu, tout va bien. À la verticale, tout va bien. Par contre, à l'horizontale, c'est un peu plus brouillé. Mes relations avec mes frères et sœurs, là, ça devient brouillé. Vous voyez, là, ça s'embrouille. Pardonnez-moi le mot. Mais c'est plus net, hein, j'ai du mal. Ou d'autres, mais moi, mon frère et ma sœur, je donne un bon exemple, je fais tout ce qu'il faut, j'ai même un beau masque que je mets mon dimanche matin, tout va bien, je dis bonjour, je salue, je cite des versets, etc. Mais j'ai rien du tout avec mon Seigneur. Aucune relation avec le Père. L'astigmatisme. Il faut que je me fasse piéger. Réfléchissons à ces choses. C'est un des points, une bonne vision. Faute de vision, le peuple périt. Exode 10, verset 7, cette phrase que j'ai notée, peut-être un peu hors de son contexte, mais il est marqué « Ne vois-tu pas que l'Égypte périt ?» Et est-ce que nous, peut-être en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas se dire « Mais ne voit-on pas que le monde périt ?» Et qu'il y a besoin peut-être de prendre courage, puis d'aller parler à quelqu'un qui n'a peut-être pas encore entendu parler, ou quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que je croise. Et puis de prendre un évangile avec moi et dire « Allez, le monde périt. Je vais aller lui parler de la part du Seigneur. Ne vois-tu pas que le monde périt ?» Et quatrième point, dans Genèse 33, je vous le lis peut-être. Genèse 33, verset 12. Allez, je le lis. « Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à ou chez mon Seigneur. » Avancer au pas du troupeau. Pour que le peuple ne périsse pas, il faut qu'on avance ensemble, pas après pas, qu'on supporte les faibles. Supporter, c'est pas « toi je te supporte », c'est peut-être porter sur nos épaules. C'est le plus grand exemple. Supporter. Allez, je vais les porter sur moi. Il y a cette vision aussi. Souvent, on dit « Ah, je le supporte, lui. » Mais c'est pas que ça. C'est les porter plus loin. Les avancer avec toi. Quand ils sont fatigués, porte-les. Toi qui vas bien, toi qui voudras aller plus loin, porte les autres. Ne va pas tout seul. Quelqu'un dira « Seul, on va loin. » Non. « Seul, on va plus vite. » Mais ensemble, on va plus loin. À peu près. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et Dieu nous appelle à arriver ensemble là-haut. Et c'est vrai qu'il demandera à chacun pour ses œuvres. Mais apparemment, on l'a vu, il nous demande aussi de veiller les uns sur les autres. Et on doit aller au pas du troupeau. Et si moi, en tant que pasteur, je dis « Allez, lisez 10 chapitres par jour, tant que vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Allez, ça y est, c'est 10, allez, on va à 11 maintenant, allez. » Je vais fatiguer tout le monde. Si je disais, allez, pourquoi ? Il faut ci, il faut ça, que j'impose ma foi, que j'impose mon rythme à des personnes qui découvrent l'Évangile. On a entendu plusieurs fois ici cet exemple. Si un bébé, on lui donne un coup de poing, on le tue. Nous, en tant qu'adultes, ben, on se ramasse, on tombe dans les pommes, mais on se relève. Mais un bébé, on peut le tuer. Si on secoue trop un bébé, on le tue. Il y a des gestes comme ça qui ne sont pas appropriés. Quelquefois, on a besoin, nous, de se secouer. Vous avez le droit de vous secouer. Mais quand on doit parler à quelqu'un d'autre, qu'on ne le secoue pas, qu'on y aille avec douceur. Le Saint-Esprit sait nous secouer avec amour et douceur parfaitement. Il sait le faire. Et même lui, il dit qu'il le fait avec amour. Donc nous, de même, nous devons faire attention. Prendre soin d'aller au rythme aussi des autres. Et si je veux faire une escapade, faire une avancée, que je sois un peu comme une sentinelle qui va vérifier, puis qui revient, rendre des comptes de ce qu'il a reçu. Quand on fait un voyage à l'étranger, dans la mission, qu'on revienne avec des bonnes nouvelles, avec peut-être des expériences, des témoignages. Mais qu'on revienne pour rattraper les autres, pour encourager, qu'on ne pense pas qu'à soi. L'égoïsme. Et puis cinquièmement, peut-être la chose la plus naturelle, la plus évidente, mais auquel on doit le plus veiller, c'est la résistance à Dieu, la désobéissance. Tout simplement. Je crois que quand on désobéit, on périt. Si on persiste dans notre désobéissance, on peut se tromper, on peut se fourvoir, on peut s'égarer, on peut faire erreur, mais il nous faut nous relever. Il faut croire encore au pardon de Jésus, acquis sur le bois de la croix. Il faut revenir à Jésus et dire « Seigneur, je te demande pardon parce que je t'ai résisté. Je t'ai résisté. » Il n'est pas dit de résister à Dieu, il est dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. » Mais moi, je t'ai résisté, Seigneur. Imaginez-vous que Jonas, il se soit buté, excusez-moi l'expression, mais qu'il se soit buté sur sa position. Et malgré le fait que le poisson l'a recraché, qu'il ait continué à reprendre encore, etc. Combien de personnes auraient péri ? Il nous est dit 120 000 à peu près. C'est la parole de Dieu qui le dit, dans le chapitre 4 de Jonas. 120 000 personnes, pour une personne qui désobéit à Dieu, qui résiste à Dieu. On pense à cet homme qui a volé quelques statuettes d'or et puis quelques manteaux, un manteau, je crois. Hein ? Je me souviens plus son prénom. Vous me pardonnez? Après Jéricho, à Aï, il y a eu la défaite à cause de lui. Et 36 personnes, je crois, sont mortes à cause de lui. Pardon? Monsieur Go, pitié, merci. À Caen. Et cet homme, 36 personnes mortes sur le terrain, sur la bataille, mais en plus toute sa famille et lui avec. Et combien de fois nos actions ont des conséquences sur notre foyer, sur notre famille. Et je ne veux pas mettre une culpabilité sur chacun, simplement qu'on réalise qu'on a besoin du secours de Dieu, pour ne pas périr. Et dire, Seigneur, donne-nous de ne pas désobéir. Dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 22, il est dit, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. C'est pour nous valable aussi. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Il parlait au peuple d'Israël, mais n'est-ce pas aussi peut-être une parole pour nous ce matin? Et dit, oui, le Seigneur ne nous abandonnera pas, il y a des promesses. En plus, on va chercher l'enseignement du Seigneur pour nous. Et puis on va se donner du mal, nous les pasteurs, pour vraiment être dans la pensée de Dieu. Mais, seulement une chose, craignez l'Éternel. Pas la peur de l'Éternel, je le rappelle. Peut-être quelqu'un est nouveau, vous avez besoin de le savoir. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est un saint respect pour la personne de Dieu. Du respect pour sa personne, qui est présent à côté de vous. Qui est présent peut-être là où vous ne vous l'y attendez pas, mais qui est là partout. Un saint respect pour la personne de Dieu. Et servez-le fidèlement. N'oublions pas qu'il nous demande aussi de le servir. Sans vous mettre un poids, nous voulons savoir que le plan parfait de Dieu, c'est qu'on le serve. Et qu'on trouve notre place dans la grande mission que Dieu nous a donnée. Si on a juste une vision, c'est bien, mais il faut qu'elle se transforme en mission, la vision. Il faut qu'elle se transforme en acte. C'est bien d'y voir bien, mais c'est bien aussi d'aller, d'avancer sur le chemin. Et le Seigneur nous rappelle par ce texte qu'il faut craindre Dieu et le servir fidèlement de tout notre cœur. Et si on ne fait pas le mal, on ne périra pas. La promesse est toujours valable. Et je relis Hébreux 12, cette fois-ci versets 1 et 2, on peut le lire ensemble. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, je conclue bientôt. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Rejetez le péché qui vous enveloppe si facilement. On l'a vu, ne pas résister, ne pas désobéir, n'acceptez plus le péché dans votre vie. Ça nous arrive, écoutez, il ne faut pas être hypocrite, ça nous arrive à tous de nous manquer. Peut-être de tomber dans le péché une fois, de faire un péché, de commettre un péché. On pêche tous. On est tous imparfaits encore. Mais Dieu, il nous dit, ne tolère pas le péché dans ta vie. Il dit que le saint, l'enfant de Dieu, il ne pêche plus, dans le sens qu'il ne pratique plus le péché. Il ne se complaît plus dans son péché. Quand il se manque, quand il commet erreur, eh bien, il fait tout pour réparer et il supplie Dieu de l'en délivrer. Et s'il n'arrive pas tout seul, il va chercher du secours. Il va le partager à un homme fidèle, une femme fidèle, une sœur, quelqu'un qui pourra intercéder pour lui, quelqu'un qui pourra le supporter et surtout ne pas le juger, mais quelqu'un qui sera son prochain pour l'aider dans sa démarche. Mais il ne reste pas dans son péché. Et si quelqu'un a besoin, qu'on prie pour lui, qu'on l'aide, pour qu'il sorte du péché, pour qu'il ait la victoire d'un vice, d'une passion, mais il n'y a pas de honte à avoir. Alors il ne faut pas te crier sur les toits. Je crois qu'il y a une certaine pudeur à avoir. Mais il faut vraiment ne pas hésiter à aller voir un pasteur, aller voir quelqu'un avec qui vous avez confiance, que vous voyez qui fait des progrès, qui sera vous porter, quelqu'un de fidèle. Et dites-lui, voilà, peut-être vous ne pourrez pas lui dire ce que c'est, mais vous pourrez lui dire, prie pour moi, aide-moi. Et puis si la confiance Et là, si vous voyez que cette personne persévère et qu'elle est un encouragement pour vous, eh bien, vous pourrez un jour peut-être lui confier la chose. Puisqu'il est dit de confesser nos péchés à Dieu, mais après, il est dit aussi dans Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres, quand on est concerné, mais aussi quand on a besoin du secours. Et on ne va pas le dire à 10 personnes, on en parle à 1, 2 personnes maximum, pour qu'on prie ensemble et qu'on s'épaule. Il me semble en tout cas que c'est peut-être le bon sens qui dicte ces choses. Et en conclusion, je ferai une dernière lecture, je vous la fais, dans Jean chapitre 11. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Et comment ça se fait que, je l'espère, on va tous repartir avec ce désir de ne pas laisser l'accès au diable, de ne pas fléchir le genou devant le diable, mais de le fléchir devant Dieu? Comment ça se fait qu'on va repartir encouragé, certain de la victoire, si nous on fait notre part? C'est parce que Jésus est venu périr, lui, afin que nous, nous ne périssions pas. Il y en a un qui s'est donné afin que nous tous, qui sommes enfants de Dieu, en tout cas, nous ne périssions pas. Ça serait dommage que Jésus soit mort en vain pour nous. Ça serait dommage, je vais élargir, que Dieu soit mort en vain pour cette assemblée. Et que cette assemblée, après avoir connu peut-être des victoires, subisse toutes sortes de défaites à cause de sa négligence. Et simplement, avec amour, je voudrais nous dire, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Jeunes, moins jeunes, jeunes et vieux, comme le dit ce chant. Ensemble, on a tous notre place, tous notre part, mais on a une part. Il n'y a pas que Dieu qui a sa part. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Et chacun d'entre nous, on doit travailler à notre salut, travailler à ce que le peuple de Dieu soit uni, fasse bloc pour résister au diable, en se soumettant à Dieu. Et alors, on est sûr de la victoire, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Et s'il nous a sauvés pour qu'on ne périsse pas, c'est qu'il y a une solution pour qu'on ne périsse pas. Mais ne soyons pas négligents et ne passons pas à côté de cette grâce et de ces promesses que Dieu nous apporte. Dans le chant tout à l'heure, on chantait « Il n'y a rien qui soit au-dessus de tes promesses ». Je le paraphrase, il me semble. Mais j'aimerais dire qu'il n'y a rien au-dessus de l'amour de Dieu. Parce qu'au-delà des promesses, toute promesse puise sa source dans l'amour de Dieu. Et une promesse, je peux passer à côté. Alors, faisons notre part tous ensemble. On l'a vu, c'est possible. Avec simplicité, je rappelle. Premier point, qui peut me rappeler? La connaissance. Le deuxième, l'unité. Troisième, la vision. Quatrièmement, marcher au pas du troupeau. Et cinquièmement, l'obéissance. Avoir de l'obéissance pour le Seigneur. Amen. Mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci parce que ta parole nous éclaire et dans la simplicité, nous pouvons comprendre que tu as des bons projets pour nous. Tu as des choses merveilleuses et c'est vrai que notre espérance est bénie en toi. Nous savons que tu as ouvert le ciel, la porte est ouverte pour tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui sont fidèles à ta parole, tous ceux qui t'aimeront jusqu'au bout de leur vie par la foi malgré tout. Et nous voulons te dire merci pour ce privilège et réaliser en même temps que nous avons notre part et peut-être ce matin, Seigneur, encore nous voulons nous engager dans notre cœur personnellement à veiller sur ces choses, à les mettre en pratique, afin que ensemble nous puissions arriver jusqu'au bout. Cette jeune fille dont j'ai parlé tout à l'heure, tu la connais, tu la bénis, je te supplie de la rattraper dans son malheur et de la bénir, de lui ouvrir encore tes bras, Seigneur, ils sont ouverts, mais de lui donner de pouvoir revenir à toi, croire en ton salut, croire en ton pardon, croire en ton secours, Seigneur, puisque tu es un Dieu qui ne te lasse pas de pardonner, nous t'aimons, Seigneur, et ensemble nous te disons merci pour un si grand amour que tu nous as manifesté sur le bois de la croix. Amen. Amen. Merci Seigneur.